Donc 1 Corinthiens chapitre 15, c'est le chapitre sur la résurrection, sur notre résurrection, mais le fait est, c'est que sans la résurrection de Christ, eh bien il n'y aurait pas de résurrection pour nous. Une particularité dans cette lettre aux Corinthiens, c'est que Paul avait été à Corinthe, il avait prêché, et nombreux étaient ceux qui avaient cru. Mais avec le temps, il y a des gens qui se sont joints à l'Église, et tous ne sont pas croyants. Des gens qui se sont joints à l'Église, mais sans vraiment devenir enfants de Dieu. Et c'est un problème qui peut exister encore aujourd'hui aussi. On a beaucoup de gens qui se réclament de la chrétienté, mais qui peut-être ne connaissent pas du tout le Seigneur. Et c'est pas seulement le fait de s'appeler Pierre ou Paul ou Marie qui fait de nous des chrétiens, c'est pas le fait de fréquenter une église qui fait de nous des chrétiens, c'est cette foi que nous avons dans notre cœur et notre qui fait de nous des chrétiens. Donc on peut s'appeler Krishna, comme on peut s'appeler Mohamed et Fatima, et être chrétien. Parce que s'il y a un moment dans notre vie où on a placé confiance en Jésus-Christ, eh bien nous sommes enfants de Dieu. Le nom que nous ont donné les parents ne fait pas de nous des chrétiens, c'est le fait que nous soyons nés de nouveau par la foi. 1 Corinthiens, chapitre 15, et je lis les premiers 11 versets. Donc 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Il dit, je vous rappelle, frère, ça veut dire, je l'ai déjà dit, mais je dois réaffirmer. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Donc il s'adresse aux Corinthiens, mais en particulier il s'adresse à ceux qui ont réellement cru à l'évangile tel qu'il l'avait prêché. Parce que justement ce chapitre il est long, vous voyez qu'il y a 58 versets et justement il est en train de parler de cette résurrection qui nous attend, et certains commencent à dire, il y avait certains gens qui passaient dans l'église et qui disaient mais il n'y aura pas de résurrection, ça n'existe pas, c'est pas possible. Alors Paul rapidement leur dit, comment vous pouvez dire que la résurrection n'existe pas pour les croyants alors que vous avez déclaré qu'elle existe pour Jésus-Christ? Il dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, mais il n'y a pas de résurrection pour vous, et si Christ est ressuscité, il y a une résurrection pour vous. Alors vous ne pouvez pas avoir croire l'un sans croire l'autre. Et la résurrection, ce n'est pas une chose que nous croyons parce que nous sommes capables de comprendre la résurrection. Notre cerveau et ce que nous savons, et surtout ce que nous savons au XXe siècle, nous dit que la résurrection, c'est impossible. Si quelqu'un reste mort plus de quelques heures, eh bien, il ne pourra pas reprendre. Ça, c'est nous le savons. Mais justement, parce que c'est une impossibilité, eh bien, c'est appelé une manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est un fait que Christ soit ressuscité, même si nous ne le comprenons pas. Il est ressuscité, il y avait des témoins, il y avait du monde qui l'ont vu. Même Paul, quand il l'a vu, n'était pas encore croyant. Mais, et donc, si lui, il a pu ressusciter, c'est que c'est possible. Même si mon cerveau dit que c'est impossible. Hein, et ce n'était pas plus possible à leur époque. Hein, ce n'est pas parce qu'eux n'avaient pas les connaissances que nous avons aujourd'hui que c'était plus facile pour eux de croire à la résurrection. Même les disciples, même Jésus leur avait parlé du fait qu'il allait ressusciter et ils avaient du mal à le croire. Et ce n'est pas parce que l'apôtre Paul avait fréquenté les pharisiens plutôt que les sadducéens, parce que les pharisiens croyaient en la résurrection et les sadducéens n'y croyaient pas. Ce n'est pas parce que l'apôtre Paul avait été chez les pharisiens pendant un temps qu'il croyait à la résurrection de Christ. Mais c'est qu'il avait des raisons pour lesquelles il croyait. Parce que c'était conforme aux Écritures, c'était annoncé et c'était accompli. Et donc nous voulons premièrement voir quelques preuves que l'apôtre Paul avance. Premièrement, ce sont les preuves avancées par Paul. D'abord, il dit les vrais croyants, les vrais chrétiens, eh bien, eux-mêmes, de par leur existence, de par leur vie, de par leur foi, eh bien, démontrent que la résurrection est une réalité. C'est vrai que, et comme je viens de le dire, dans l'église de Corinthe, tous n'étaient pas des vrais enfants de Dieu. Et vous pouvez imaginer que comment on pouvait les distinguer, c'était pas justement par leur mode de vie. Hein, s'il y avait des gens dans l'église de Corinthe, hein, si vous lisez cet épître, il y avait des gens qui vivaient dans le péché. Paul dit, mais comment vous arrivez à vivre dans le péché et à commettre des péchés plus graves que ceux qui sont dans le monde ? Et prétendre être enfant de Dieu. Donc on peut être membre d'une église locale et ne pas être enfant de Dieu. Et on peut venir à l'église baptiste du quartier de Villeneuve et pas être enfant de Dieu. La question, c'est la foi. Hein? Alors, c'est pour ça que dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 5, l'apôtre Paul dit... Il dit « Examinez-vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Il vaut mieux se poser la question maintenant que de se réveiller un jour et dire « Ah, je croyais que j'étais chrétien. » Ce sera trop tard. Les membres adhérents étaient le moyen par lequel les philosophies religieuses, les faux prophètes, les faux docteurs, tout ça, ils arrivaient... Ils avaient accès à l'église de Corinthe et puis apportaient toutes sortes d'enseignements et ce qui créait pas mal de problèmes. Hein, si vous êtes dans 1 Corinthiens, là, regardez le chapitre 3. Je vais juste lire rapidement ce verset sans trop faire de commentaires. 1 Corinthiens chapitre 3, je lis les premiers 8 versets. Il dit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » Donc il dit, ce n'est pas des gens spirituels. Il dit, certains d'entre vous n'êtes pas spirituels. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc il y a, dans une église, on peut avoir des gens qui se réclament chrétiens, qui ne le sont pas. Hein. Ils adhèrent, ils aiment l'ambiance, tout ça. Après, il y a ceux qui ont prié, demandé à Jésus de pardonner leurs péchés, mais qui vivent encore dans le péché, ils n'ont pas fait de progrès dans leur vie. Donc, c'est des nourrissons dans la foi. Et donc, il faut toujours leur expliquer les mêmes choses de base. Et puis après, il y a ceux qui ont grandi, ils sont développés, ils ont atteint maturité ou ils sont en voie de maturation dans la foi. Hein, et dans toute église, eh bien, il y a toutes ces catégories-là. Et alors, il dit, « Je n'ai pas pu vous parler comme à des enfants en Christ. » dit, je vous ai donné, au verset 2, je vous ai donné non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul », un autre dit « Moi, je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas par celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Il dit, ne vous rattachez pas à des hommes, dis-moi, oh, moi c'est monsieur un tel, hein. Mon pasteur préféré, c'est celui-là. Moi, le théologien que j'aime suivre, c'est celui-là. J'achète que ses livres et rien d'autre. Il dit, oh là là, vous parlez comme des enfants, là. Hein? Ils ont leur carte de tous les joueurs, leur joueur préféré de foot, là. Hein? Il dit, eh, on ne fait pas la même chose avec la vie spirituelle. On n'a pas nos joueurs. Il n'y a que Dieu et Jésus-Christ. Si j'ai entendu par le biais d'un tel, tant mieux. Si j'ai entendu par le biais d'un autre, très bien. Il y en a qui ont entendu l'évangile la première fois par un incroyant. Et il y en a qui l'ont entendu d'un enfant, il y en a qui l'ont entendu du père. Peu importe. Hein. Ce n'est pas le véhicule qui est important, c'est le message qui est important. Il dit alors, il y a un problème. Et alors vous comportez comme des enfants. Après, bien sûr, les enfants, vous savez, ça invente, ça dit toutes sortes de bêtises parce qu'ils. Et ça imagine des choses. Et dans le monde spirituel, il y a aussi. Regardez le christianisme en général autour du monde. Eh bien, il y a toutes sortes de choses qui se disent. Il y a toutes sortes de choses qui circulent. Et si vous faites un tour sur l'Internet, vous allez entendre toutes sortes de choses. Je dis, mais où est la vérité? Et je comprends le problème. Ben, la vérité, elle est là. Elle n'est pas chez monsieur un tel. Et c'est pas parce qu'il fait un spectacle frappant ou parce qu'il met de l'ambiance dans son culte que... Non, c'est est-ce qu'il est fidèle à la parole de Dieu? Rien de plus, rien de moins. Jésus a dit, celui qui ajoute ou celui qui retranche, c'est pareil. Hein, c'est toute la parole de Dieu. Et alors, cette église, parce qu'elle était charnelle, parce qu'ils avaient chacun essayé de comprendre et ils avaient ses idées, eh bien, le résultat, c'est qu'il y avait une pagaille spirituelle dans l'église. Et l'apôtre Paul dit, mais vous êtes quand même quelque chose d'aussi basique que la mort et la résurrection de Christ, et c'est pas clair chez vous. Vous discutez là-dessus, c'est pas possible. Jésus lui-même avait eu des personnes, des disciples, des gens qui se réclamaient de ses disciples. Dans Jean chapitre 6, il avait eu des gens qui se réclamaient d'être ses disciples et qu'il avait suivi jusqu'à ce qu'ils ont entendu les paroles de Jésus dans Jean chapitre 6. Ils ont dit, mais ça, ces paroles sont dures. Non, c'est trop dur. C'est trop dur. Alors, et puis il nous dit, dans chapitre 6, il dit... Il y en a qui sont partis. Si vous lisez dans Jean 6, 60, 64, 66, ces versets, il nous dit Jésus ne se trompait pas. Il savait quels étaient les vrais disciples. Ce n'est pas tous ceux qui se disent « Moi, je suis de Jésus ». Hein, il y en a qui étaient ses disciples parce qu'ils aimaient ses miracles. D'autres étaient de Jésus parce que, justement, il venait de Nazareth et puis il était contre les pharisiens. Et il trouvait ces pharisiens très hypocrites et donc il suivait Jésus. J'ai craint parce qu'il était contre les pharisiens. Vous savez, ce n'est pas comme ça dans la foi. Hein, ce n'est pas parce que je ne suis pas de ce parti-là que tous ceux qui sont contre lui, je suis avec eux. Ce n'est pas comme ça dans la foi. Et finalement, tous sont partis. Et à la fin du chapitre 6, Jésus se tourne vers ses disciples et dit, « Et vous, vous allez partir aussi ?» Et c'est là que Pierre répond, « Mais à qui irions-nous ? Seul toi, tu as les paroles de la vérité. » Et c'est pour ça qu'on reste avec Jésus. C'est parce que lui seul a les paroles de la vérité. Mais c'est tout ce qu'il faut retenir. Tout le reste, c'est les pensées des hommes. Et vous savez, les apôtres, s'ils n'avaient pas cru à la résurrection de Christ, et ils l'avaient pas cru jusqu'à après la résurrection, hein, et même Thomas, lui, il arrive le dernier, et c'est une semaine plus tard, lui, il a une semaine de décalage en plus. Mais, vous savez, quand on considère la persécution qu'ils ont dû endurer, certains ont été crucifiés, certains ont été brûlés, certains ont été décapités, et tous sont morts en martyrs, eh bien, vous savez, si on n'est pas convaincu d'une chose, on se laisse pas tuer pour une chose, hein. C'est une chose de se réclamer d'une équipe de foot, et puis moi je suis de Nice, et puis moi je suis de Monaco, et moi je suis de Marseille. C'est facile de dire, parce qu'ils gagnent ou ils perdent, ça ne change rien pour ma vie. Mais c'est autre chose qu'on a dit, mais tous ceux qui se réclament de ça seront mis à mort. Alors là, il faut être sûr. C'est un peu comme ça, je dis en passant entre parenthèses, c'est un peu comme ça qu'ils ont pu un peu déterminer quels étaient les vrais livres, les livres inspirés. Parce que les gens voulaient être sûrs, si on allait les mettre à mort parce qu'ils possédaient un livre inspiré, ils étaient prêts à le faire. Mais si c'était parce qu'ils avaient un livre qui n'était pas inspiré, ils n'étaient pas prêts à le faire. Ils disaient, allez-y, me brûlez ça, moi, c'est pas grave. Mais quand c'était la parole de Dieu, là, ils étaient prêts, parce qu'ils étaient convaincus. Vous savez, on ne se sacrifie pas pour n'importe quoi. Il faut être convaincu. Et les disciples étaient convaincus de la résurrection de Christ, ils l'avaient vu. Et là, dans 1 Corinthiens 15, justement, l'apôtre Paul nous rappelle, il nous dit, il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, il est apparu aux 12 dans la chambre haute, vous savez, il est apparu à 500 frères à la fois, donc à un moment il y avait 500 témoins qui étaient là, on ne peut pas tromper tout le monde, hein. Et il est apparu à Jacques, et puis il a dit, Paul dit, et en plus moi aussi un jour, je l'ai vu. Et je sais qu'il est ressuscité. Et donc le vrai chrétien, c'est celui qui a compris que Jésus-Christ est mort, il devait mourir, qu'il est réellement mort, et qu'il est réellement ressuscité, et qu'il a vaincu la mort. Il fallait que Christ meure sur la croix pour que nous soyons délivrés du péché. Je ne vais pas développer ça ce matin, mais quand vous lisez, il y a le péché c'est ce qui est venu dans le monde quand Adam a désobéi, donc le péché, la nature pécheresse, ce fait que nous avons à la naissance. Et puis après il y a les péchés ce sont les actes de désobéissance que nous commettons depuis notre naissance. Alors il fallait que Jésus meure sur la croix pour ôter le péché. Vous vous souvenez des paroles de Jean-Baptiste qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc il n'y a personne dans ce monde, aucun être humain, qui sera condamné à la fin, qui sera condamné parce qu'il dit « Mais parce que tu es descendant de Adam. » Il dit ça, cette faute-là, elle a été enlevée. Personne ne porte cette charge-là. Tu n'es responsable que pour ce que tu as fait. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire pour nous, non pas de dire « Père, je te demande pardon pour ce qu'Adam a fait dans le jardin d'Éden. » Personne ne nous avait dit de demander de faire ça. On n'a pas à demander, c'est réglé. Mais je viens à Dieu, je dis « Dieu, j'ai péché, j'ai commis des fautes. » Même beaucoup étaient involontaires, d'autres c'était de la négligence, d'autres c'était des habitudes, d'autres c'était « Mais j'ai péché. » Et il peut nous pardonner. Dans Romains 4, versets 24 et 25, il nous dit « Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, donc nos péchés, et ressuscité pour notre justification. » livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Il fallait et la mort et la résurrection. Par la croix, Dieu a prouvé son amour. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Hein, Romains 5, 8. Mais Romains 1, 4 nous dit, c'est que Dieu a déclaré Jésus, fils de Dieu, avec puissance par la résurrection. Donc par la croix, nous exprime, c'était le geste qui nous exprimait l'amour de Dieu. La résurrection, c'était le geste qui nous démontrait la puissance de Dieu. Et donc, il est important pour nous de croire en la mort et la résurrection de Jésus pour être sauvés. Hein. Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il est nécessaire et de croire à la mort de Christ et à sa résurrection pour être sauvé. Et celui qui a été sauvé, eh bien, il persévérera dans cette vie nouvelle. Et il n'y a que lui qui pourra. Vous savez, la vie chrétienne, Dieu ne demande pas beaucoup de choses. Il nous demande seulement de vivre pour lui. Mais quand on n'a pas la foi, quand on n'est pas vraiment sauvé, c'est difficile de vivre la vie chrétienne. Parce que c'est contre nature. C'est dans... L'apôtre Paul parle du fruit de l'esprit. Vous savez, j'en prends un au hasard comme ça, mais il dit l'amour. Et l'amour tel que Dieu conçoit. L'amour, c'est l'amour où je cherche le bien de l'autre. Je cherche le bien d'autrui. Hein, c'est l'amour qui suggère dans le couple. Chacun cherche le bien de l'autre. Finalement, il y a la personne qui est oubliée dans le couple. Quand il nous dit « aimez-vous les uns les autres », quand les membres de l'Église, chacun aime l'autre, et bien finalement, tout le monde se fait aimer. Mais comprenez que le diable, il a du mal à aimer. C'est contre sa nature. Lui, il est toujours là pour mettre un peu de la zizanie. Il suggère des mots qui échauffent la discussion. Jamais pour calmer la chose. Et lorsque, parfois, dans de bonnes conditions, quand tout va bien, tout est calme, on arrive à bien se comporter. Mais c'est lorsque le doigt prend le coup de marteau, tout d'un coup, il y a des paroles qui échappent, et c'est ce qui est dans le cœur qui sort, là. Quelqu'un nous irrite et tout d'un coup, ça débite et on se dit, c'est sorti d'où ça? Hein, mais c'est sorti, vous savez, c'est comme l'éponge. Hein, vous voyez une éponge, elle est belle, là, sur la table. Et quand vous l'écrasez, vous savez ce qu'il y a dedans. Hein, ça peut être du lait, ça peut être du vinaigre. Mais c'est lorsqu'elle est écrasée qu'on sait ce qu'il y a dedans. Et c'est quand un chrétien est écrasé qu'on sait ce qu'il y a dedans aussi. Et si j'ai l'amour de Dieu, quelqu'un presse, et puis on a ce qui sort comme de la bouche de Jésus, alors qu'il était pressé sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, » Ben, c'est que c'était dans son cœur, hein, s'il a pu dire ça. Parce que moi, dans mon état naturel, si on me mettait sur une croix, je ne crois pas que j'aurais de telles paroles pour les gens. Hein, surtout quand c'était une telle injustice. Je me dis, je meurs quand même, alors autant leur dire ce que je pense. Hein, c'est ça qu'on a envie de faire. Alors Paul, dans ses premiers deux versets, il dit, frère, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré pendant un temps. Vous avez fait du chemin. Il dit, je vous rappelle cela. Et c'est cet évangile par lequel vous avez été sauvés. Le mot évangile, hein, veut dire une bonne nouvelle, hein, une bonne nouvelle de Dieu. Et il dit, si vous le retenez dans les termes que je vous ai annoncés, hein, il faut le garder tel que je vous l'ai présenté, tel que la Bible le présente. On ne peut pas transformer cet évangile. Hein, il y a d'autres évangiles qui circulent, hein, d'autres enseignements. Certains vont vous dire que vous pourrez être sauvé par la souffrance. D'autres vont vous dire que vous pourrez être sauvé par en donnant de vos biens. D'autres vont vous dire que vous pourrez être sauvé en persévérant avec toute votre volonté et vos efforts. Et Dieu sait qu'on n'est pas capable. Il ne demande pas tant que ça. Tout ce qu'il dit, je veux que vous soyez attachés à moi, c'est tout. Si mon épouse m'aime, ce n'est pas parce que je suis parfait. Elle comprend mes imperfections, et trop bien parfois. Mais parce qu'elle m'aime. Et c'est à moi de lui aussi de l'aimer en retour. Alors, il dit, le vrai croyant montre qu'il est croyant de par cette foi qu'il a dans la résurrection de Christ et le fait que cette résurrection, eh bien, elle affecte sa vie et il persévère. Lorsqu'on est convaincu d'une chose, rien ne nous détourne de cette voie. Et les Écritures aussi, l'apôtre Paul nous dit, les Écritures attestent de cette réalité que Christ est mort. Vous savez, il y a dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il y a deux choses où Paul dit ce que j'ai reçu du Seigneur. Si vous voulez, dans 1 Corinthiens 11, il parle de la table du Seigneur. Il dit ce que j'ai reçu du Seigneur, ainsi que je l'ai reçu du Seigneur, je vous l'annonce. Dans le sens de dire, je ne l'ai pas reçu des apôtres, je n'ai pas eu un entretien avec l'apôtre Pierre et il m'a raconté comment ça s'était passé dans la chambre haute. Il dit, non, c'est Dieu qui m'a raconté. Et ce qu'il fait, c'est que les deux correspondent. Hein. Ça permet de vérifier aussi. Mais il dit, il lui a montré quoi? Il a montré la scène qui commémore quoi? La mort de Christ. Un premier élément essentiel, la mort de Christ. C'est pour que nous n'oublions jamais que c'est le sang de Christ qui a été versé pour le péché de beaucoup. Et puis ici, il parle, il dit, et ce que Dieu m'a révélé aussi, hein, comme j'ai reçu du Seigneur, verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Ce que j'ai reçu, l'autre chose que j'ai reçu, eh bien, c'est le fait que Christ soit ressuscité. Et justement, c'est la résurrection, ben c'est ce qu'on déclare par le baptême. Hein, le baptême, je ne vais pas développer ça non plus ce matin, mais le baptême, justement, le baptême par immersion, justement, annonce cette résurrection de Christ. C'est-à-dire la personne descend dans l'eau, donc elle est enterrée, et puis elle ressort, elle ressuscite. Donc elle s'est unie à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et donc dans sa mort et ma vie passée part avec dans la mort et je ressuscite avec Christ et je vis une vie nouvelle. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont trempés dans l'eau et puis ressortent et puis leur vie ne change pas. Si leur vie ne change pas, c'est qu'il n'y a eu rien de changé dans leur cœur. Parce que cette ordonnance du baptême, telle que Jésus l'a enseigné aussi, hein, il a dit « baptiser », eh bien, c'est une déclaration publique de ce qui s'est déjà passé dans le cœur. C'est que réellement, dans mon cœur, je me suis déjà identifié à Christ dans sa mort, et puis dans sa résurrection pour vivre en nouveauté de vie. Regardez dans Romains chapitre 6, je lis, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, mais je vais juste lire rapidement Romains chapitre 6, et verset 1. Romains chapitre 6, verset 1, dit « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Il dit, si on croit, on est venu à Christ pour qu'il nous délivre du péché, puis après on continue dans le péché. Mais il dit, ça n'a pas de sens. Hein? Je vais voir chez le médecin, j'ai mon ordonnance et tout ça. Et après, je fais tout pour rester malade. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés, que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que le vieil homme, c'est-à-dire ma vie passée, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Il dit, ça y est, je suis mort, l'ancien Steve est mort, le péché qu'il avait hérité de ses pères, c'est avec l'ancien. Maintenant, je veux vivre le nouveau Christ, le nouveau Steve en Christ, et je vis une vie nouvelle, celle de Christ. C'est ça le principe. Maintenant, un autre jour, on pourra voir plus en détail comment le réaliser, mais là, c'est le principe. Et Paul a reçu deux choses du Seigneur. Il a dit, un, c'était concernant la mort de Christ, et il ne faut pas l'oublier. Et deuxièmement, c'est concernant sa résurrection. Et ça aussi doit se manifester dans notre vie. Vous vous souvenez qu'après la résurrection de Christ, dans Jean chapitre, non c'est Luc chapitre 24, il y avait les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchaient, ils avaient la tête comme ça, la tête longue, comme s'ils revenaient de l'enterrement. Et Jésus les voit et dit, vous avez l'air bien triste. Il dit, mais tu n'as pas entendu ce qui s'est passé à Jérusalem? Il dit, quoi? Jésus savait quoi? Et c'était lui. Bon, eux, ils ne savaient pas qu'il était Jésus. Et puis parfois, Jésus, souvent Dieu pose la question, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas, c'est pour nous faire parler. Parfois, on fait ça dans le couple aussi, hein. Alors, il dit, vous savez pas? Il me dit, mais écoute, tu sais pas, à Jérusalem, il y avait ce Jésus, nous, on croyait que vraiment il allait faire des choses, et puis tout ça, et puis tout d'un coup, il est mort, et puis c'est terminé. Brusquement, tout est fini. Et il dit, et puis pourtant, nous espérions que lui ferait des choses. Et Jésus dit, mais attendez. Et puis il commence à partir de Moïse, et puis il commence à citer les prophètes, et puis il commence à verser après un autre passage, et puis leur dit, en train de leur démontrer que Jésus, le Messie, devait mourir. C'était le plan de Dieu. Et peut-être qu'il avait parlé du psaume 22, peut-être qu'il avait parlé d'Ésaïe 53, et puis bien d'autres. Mais plus tard, quand les deux disciples ont compris, ils ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous, au-dedans de nous, hein? Dans ce Luc chapitre 24, il dit, mais quand il parlait, on a eu l'impression que il y avait quelque chose dans ses paroles. C'était pas juste des mots comme ça, il y avait quelque chose de vrai. Et puis quand tout d'un coup, ils se sont rendus compte que c'était Jésus qui était là avec eux, et puis il a disparu, et ben, s'ils avaient pris 3 heures pour faire Jérusalem et Emmaüs, ils ont fait 1 heure pour le retour. Hein, parce qu'ils sont retournés et disent, mais Jésus est ressuscité. Et ils sont dans la chambre haute en train de dire, d'expliquer aux autres disciples, mais Jésus est ressuscité, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, tout d'un coup, Jésus apparaît. Mais ce qui est important, c'est que Jésus a dit, il a pris le texte à partir de Moïse et des prophètes. Parce que ces choses étaient annoncées dans les... L'apôtre Pierre, quand il est à Pentecôte, quand il se lève après l'onction du Saint-Esprit, eh bien, il se lève et il cite le psaume 18 pour montrer que c'était normal, Jésus devait mourir. Finalement, vous l'avez mis à mort parce que vous voulez vous débarrasser de lui, mais finalement, vous avez accompli le plan de Dieu. Alors, l'apôtre Paul dit ici aux Corinthiens, il dit, je vous ai enseigné aujourd'hui, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il dit, ça avait été annoncé et ça s'est passé exactement comme il l'avait dit. C'était le plan de Dieu. Alors, il est ressuscité. Et nous savons que s'il est mort selon les Écritures, s'il a été enseveli selon les Écritures, s'il est ressuscité selon les Écritures, eh bien, tout ça veut, pour nous, ça veut dire que tout le reste qu'il a promis, eh bien, ça se fera. Alors, quand il nous dit, je vais vous préparer une place, eh bien, vous savez, ou une personne, c'est un menteur, et tout ce qu'il dit, c'est du mensonge, comme le diable, ou bien c'est quelqu'un qui dit la vérité, et tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Hein, quand vous avez confiance en quelqu'un, eh bien, les choses que vous ne pouvez pas vérifier, vous les croyez quand même. Pourquoi ? Parce que vous avez confiance en la personne. Et c'est la relation qu'on développe avec Jésus-Christ. Il y a certaines choses qui sont vraies. Il y a des choses où il nous promet, on le demande, on lui dit « Seigneur, donne-moi, je veux cette vie nouvelle. » Et puis on voit, on sent la transformation. Il dit « Tiens, ça s'est passé comme il a dit. » Eh bien, les autres choses, je sais qu'elles sont là aussi. Parce que je commence à développer une relation de confiance en Dieu, en Jésus-Christ. Quand il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », eh ben, même quand je ne le vois pas, je sais qu'il est là. Parce qu'il a dit « Voici, je suis avec vous ». Et par la résurrection, Jésus, comme on vient de le dire, Dieu a déclaré Jésus avec puissance, il l'a déclaré fils de Dieu, Romains 1, 4. Et puis comme nous l'avons lu dans le Romains chapitre 4 et les derniers versets, il est dit, il est mort pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Justification, rapidement, ça veut dire que d'être déclaré juste devant Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai cru, quand Dieu me regarde, il me voit sans péché. Pas à cause de moi, mais parce qu'il me voit à travers de Christ. Parfois, en tant qu'enfant, quand on a le père, il a une bonne réputation, les enfants, ils arrivent à obtenir des choses, mais au nom de leur père. Parce que les gens aiment bien le père, et parce qu'ils ont convaincu le père, bon, alors le fils, ah, tu es le fils d'un tel, bon, d'accord, c'est bon. Oui, mais c'est quand on est en Jésus-Christ, et c'est pareil, le père, il nous regarde, il dit, ah, tu es en Jésus-Christ, alors il n'y a pas de problème. Et c'est ça le principe du salut que nous avons dans l'Évangile. C'est pour ça que c'est important d'être en Christ. Et c'est possible d'être en Christ parce que Christ est mort et parce qu'il est ressuscité. On ne peut pas être dans quelqu'un qui est mort. On peut être que dans celui qui est vivant. Et cette résurrection de Christ, elle a une extension dans notre vie parce que si Christ est ressuscité, eh bien ça change tout, ma manière de voir les choses, ma perspective, ma manière de vivre. Il est ressuscité, je le reverrai, j'aurai des comptes à rendre, je veux vivre pour lui, je veux que d'autres le découvrent, et ça va affecter la manière dont je vis. Je ne peux pas faire ce que font les autres, je ne peux pas vivre comme font les autres. Quand je sais qu'une chose est nocive, eh ben j'arrête de le faire. Quand je sais que ce n'est pas bon pour moi, et j'encourage d'autres. Ça change ma vie. À partir du moment que je suis convaincu, il parle de lorsque nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes en nouveauté de vie. Nouveauté de vie, c'est cette vie nouvelle. Et nous commençons à vivre dès maintenant. Nous vivons la vie éternelle. À la gloire de Dieu. Et après, les gens, ils nous regardent. Ils nous disent, mais tu as changé. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ben, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, bah c'est bien, bah au moins tu as trouvé celui qui te correspond. Mais oui, et puis il s'appelle Jésus. Quoi ? Oui, c'est Jésus. Mais Jésus, tu sais, Jésus, bon, moi je ne suis pas pour la religion, tout ça. Non, c'est pas la religion, c'est une personne. C'est pas une religion, c'est une personne. Oui, mais Jésus, oh, tout le monde dit Jésus. Mais écoute, dans la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible ? C'est ce Jésus-là que tu veux. Et c'est celui-là qui change ma vie. C'est celui-là qui me donne un sens nouveau. Même les ennemis de Jésus à son époque ne pouvaient pas le critiquer. Ils essayaient de mentir, ils n'arrivaient même pas à mentir contre lui, tellement ça. Et les gens d'aujourd'hui aussi, hein, je me rappelle à Saint-Denis, une fois, j'étais là en train de... La mairie est très athée, pour dire le moindre des choses, à l'époque, et je parlais avec ces gens, et puis je disais, mais... c'est pas la religion, hein, c'est pas ce que font les chrétiens, ça je comprends. Si je savais que ce que vous saviez, eh bien je serais comme vous, j'aurais tout rejeté aussi. Mais Jésus, qu'est-ce que vous avez contre lui? Il dit, ah, là, ils ont dit, même ces athées là, ils ont dit, ah, ben, ça c'est sûr, si les gens vivaient comme Jésus, alors c'est sur autre chose. Et je dis, alors voilà, il y a Jésus, et puis il y a les gens qui se prétendent d'être de lui. Et ça c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais les faux billets n'existent que parce qu'il y a des vrais billets. Hein? On ne copie jamais des faux billets. On copie que des vrais billets, de la vraie monnaie. Donc s'il y a des faux billets, c'est qu'il y a un vrai quelque part. Cherche-le jusqu'à ce que tu le trouves. Et s'il y a des faux docteurs, des faux croyants, des gens qui prétendent toutes sortes de choses, dites, bon, je ne veux pas ça, mais je veux le vrai. Celui qu'ils essayent d'imiter. Et celui-là se trouve dans la Bible et pas ailleurs. Que le Seigneur nous aide et que Pâques, ce ne soit pas juste... Hein, j'espère que ça va au-delà des œufs en chocolat. Pourtant, j'aime bien ça. Hein. Et j'espère que surtout que ça va au-delà de lapins qui pondent des œufs. Alors là, c'est vraiment incroyable. Après, on ne veut pas croire à la résurrection. Que ce soit... l'amour de Dieu qui a fait mourir Christ, la puissance de Dieu qui l'a ressuscité, et puis il dit maintenant je peux tout offrir parce que Christ est mort, il est ressuscité, maintenant je peux t'offrir tout ce que j'ai envie de te donner. Est-ce que tu veux bien le recevoir? Et si je le reçois et je suis convaincu de cette chose, ça va changer les choses dans ma vie. Et parce que je vis pour quelque chose de réel. Prions. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ton grand amour. Dans l'humiliation extrême, nous sommes attirés à cet homme, Jésus. Sur la croix, il dépasse n'importe quel autre être humain. Combien plus maintenant qu'il a été glorifié. Et qu'il a été élevé au-dessus de tout nom. Maintenant, c'est le nom devant lequel tous devons se prosterner. Soit maintenant, soit plus tard. Père, nous te prions de nous aider à vivre pour toi, pas avoir honte de toi, mais de vivre cette vie transformée, afin que tu sois glorifié. Que ce jour de Pâques, bien, soit un jour de victoire, de consécration, d'une vie nouvelle en toi. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Je vous propose...